Ariane 6 a décollé hier soir de Kourou, la fusée européenne, et avec succès en plus. On parle des enjeux de l'envoi de cette nouvelle fusée européenne dans l'espace. Avec Pierre-Emmanuel Paulys, il travaille à l'Eurospace Center et préside le Mars Society Belgium. Il est au micro de Lucie Gilson. Par avance, veuillez excuser la qualité du son, mais à l'impossible, nul n'est en tenue. On n'a pas réussi à faire mieux.
Alors, bonjour Pierre-Emmanuel Paulys.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Judaïka. Vous travaillez à l'Eurospace Center et vous êtes président de la Mars Society Belgium, donc un grand passionné de l'espace belge. Aujourd'hui, on voudrait aborder avec vous un sujet un peu inhabituel puisqu'on va parler conquête de l'espace, car le lanceur Ariane 6 doit prendre son envol ce soir vers 20h de Kourou en Guyane française. C'est un événement qui est très médiatisé en Belgique. On se réjouit d'avance du succès d'une telle entreprise, mais qui s'était fait attendre, car il a 4 ans de retard. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, un lancement de fusée?
Oui, d'abord, le lancement est déjà reporté d'une heure, si j'ai bien compris. Oui. Il y a un problème au niveau de la salle de contrôle, mais qui apparemment est résolu. Donc, voilà, il est reporté déjà d'une heure sur une fenêtre de lancement qui en dure 3. Donc il restera 2 heures pour lancer la fusée. Et donc la fusée, lancement, ça s'inscrit avec une date et une heure qui sont fixées très longtemps à l'avance en fonction de tas de paramètres, notamment du placement de la charge utile, de la tête qui tourne, etc. etc. Et donc c'est l'aboutissement en fait d'un énorme compte à rebours qui a commencé pendant des semaines et des mois à l'avance et qui va de plus en plus vite au fur et à mesure que l'heure du lancement approche. Il y a des tas de paramètres à vérifier au niveau du lanceur, mais il y a aussi un moment critique qui est le remplissage de tous les réservoirs d'une fusée qui se termine seulement quelques minutes avant la fermeture des valves et le lancement proprement dit. Et tout ça sont des étapes à franchir avec succès pour donner le go au décompte final pour les 10 ou 15 dernières secondes avant le départ. Ouais.
Est-ce qu'il y a des mesures qui doivent être mises en place en cas d'anomalie?
Oui, la mesure la plus extrême, puisque c'est un lanceur non habité, donc on n'hésite pas, si jamais il y a un problème qui menace la population, qui menace les biens ou les gens, ou la vie des gens au sol, évidemment, eh bien on détruit le lanceur en pleine ascension, c'est déjà réalisé, il y a une charge explosive à bord, et il y a un responsable de la sécurité qui pousse sur un bouton si jamais la trajectoire dévie trop, si la fusée retombe, s'il y a un risque quelconque, on détruit le lanceur, on n'hésite pas. Il est au-dessus de l'océan, donc on est évidemment évacué, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien du tout, et donc ça retombe dans l'eau sans aucun problème en cas de problème.
Voilà. Est-ce qu'il y a des inquiétudes pour ce lancement Ariane 6 qui va avoir lieu ce soir?
Il y a toujours des inquiétudes, à tout lancement il y a des inquiétudes, d'autant plus ici que c'est un vol d'essai, donc c'est un vol test, c'est la première fois qu'on lance un nouveau type de fusée, la version Ariane 6. Maintenant, elle est basée sur des éléments d'Ariane 5, des moteurs d'Ariane 5 qui sont créés pour Ariane 6. Donc, ce sont des systèmes qui ont quand même fait leurs preuves et qui sont connus. Et donc, personnellement, j'ai confiance. Mais à un moment donné, il faut bien lancer. Donc, quand on décide de faire quelque chose comme ça, et à un moment donné, il faut y aller. Il faut prendre le risque et on y va. Alors, ça peut échouer, évidemment. C'est arrivé avec le premier vol d'Ariane 5 qui a explosé en plein décollage. Mais bon, on ne baisse pas les bras. On étudie pourquoi ça explose. On recommence et on remet le travail en route. Donc, l'échec est toujours possible, mais croisons les doigts, ça va aller.
On l'espère. Et pouvez-vous nous expliquer un peu quels sont les enjeux et les défis associés à ce lancement pour l'Europe?
Oui. Il était temps de passer à un nouveau lanceur parce que le contexte spatial mondial a entièrement changé. Du côté américain, avec l'arrivée des sociétés privées qui ont fabriqué des lanceurs qu'on peut réutiliser. Donc les premiers étages viennent se reposer sur des plateformes au sol ou en mer, pendant que la charge utile continue propulsée par un second étage, donc des fusées à 2 étages au lieu de 3 habituellement déjà. Quand tout ça a été décidé en Belgique de faire un nouveau lanceur, les sociétés privées n'avaient pas encore vraiment communiqué sur ce qu'ils étaient en train de préparer. Donc on a été un petit peu pris de court. Je pense que quand il y a 10 ans, on a décidé du programme Ariane 6, on ne savait pas tout ça. Et donc, on commence confiance déjà avec un nouveau lanceur qui est légèrement dépassé, quoique il y a quand même des innovations au niveau de ce lanceur qui ne sont pas présentes chez les concurrents. La Chine n'est pas concurrentielle à ce niveau-là, la Russie encore moins, donc il n'y avait que les Américains sur le marché, donc il était temps que l'Europe s'y mette aussi, et donc nous voilà concurrentiels avec les Américains, et donc c'est une très très bonne chose pour nous, évidemment. Ce lanceur Ariane 6 a quand même une innovation tout à fait intéressante, c'est qu'elle peut, en un seul vol, placer des satellites en orbite basse et en orbite haute. C'est-à-dire qu'elle commence la mission par placer des satellites en orbite basse, par exemple, comme ce sera le cas aujourd'hui. Et puis, on peut rallumer le troisième étage de la fusée pour continuer à grimper et placer d'autres satellites en orbite plus haute. Et donc, tout ça en un seul vol. Donc là où les Américains ont besoin de deux fusées, une fusée pour l'orbite basse et puis une autre éventuellement plus puissante pour l'orbite haute, nous, maintenant, avec l'Europe et Ariane 6, on peut faire d'une pierre deux coups et réaliser les deux orbites en même temps. Donc ça, c'est extrêmement intéressant.
Donc c'est un projet qui va permettre du coup le retour de l'Europe sur la scène spatiale internationale. Et est-ce que c'est aussi pour faire concurrence à SpaceX, le projet d'Elon Musk ?
Bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis ça permettra à l'Europe de lancer, avec un moyen européen, ses propres satellites et de ne plus dépendre des Américains. Puisque les Chinois, non, c'est pas possible. Les Chinois ont des problèmes au niveau des composants électroniques, etc., qu'ils étaient obligés d'acquérir aux États-Unis. Maintenant, ils ne peuvent plus. La Russie, elle est clouée au sol avec les événements en Ukraine. Donc, il fallait que l'Europe puisse disposer de son propre lanceur, et ça va être le cas dès ce soir, si tout va bien.
Et alors, du coup, question subsidiaire, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'état global de l'espace mondial ? Qu'est-ce qui se passe au niveau... est positionné où ?
Oui, une révolution incroyable qui s'est produite aux États-Unis avec l'arrêt des vols de navettes spatiales et dont a profité un certain Elon Musk avec sa société privée SpaceX qu'il venait de créer et qui a mis au point cette société grâce au génie de l'informatique et à l'apparition des nouvelles technologies, programmes informatiques, mais surtout GPS, imprimantes 3D, etc. Ça a permis de mettre au point des nouveaux lanceurs beaucoup plus économiques, donc qui diminuent le prix d'un lancement, et pour lesquels nous, en Europe et ailleurs, quand c'était le cas en Russie, etc., on n'était absolument pas concurrentiels. Et donc, grâce à Ariane 6, on va pouvoir limiter un peu la casse, mais il faut déjà quand même penser à l'avenir, bien entendu. Et donc, c'est toute nouvelle fusée. On a la particularité du côté américain. On parle de SpaceX, mais il y en a d'autres aussi qui sont dans la course, comme Blue Origin, comme et d'autres, comme Axiom, etc., qui mettent au point des lanceurs dont les premiers étages reviennent se poser au point de départ. Et donc, on peut les réutiliser. Et c'est assez impressionnant. La Falcon 9 de SpaceX, par exemple, vient d'utiliser pour la 100e fois d'affilée un même premier étage. C'est hallucinant. Alors, c'est le cas des étages, mais c'est également le cas des capsules. Alors, bien sûr, elles reviennent puisqu'il y a des astronautes dedans, il faut bien les ramener sur Terre. Mais en plus, les capsules, elles sont réutilisables aussi. Donc, SpaceX tourne avec trois capsules habitées qui volent les unes après les autres. Et ça, c'est tout à fait révolutionnaire également, grâce aux nouveaux matériaux. Les capsules, elles brûlent en rentrant dans l'atmosphère. Il fallait des matériaux spéciaux qui étaient extrêmement abîmés. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et on a des nouveaux matériaux qui permettent de récupérer la capsule. Ça, c'est tout à fait incroyable, révolutionnaire et économique, bien sûr.
Une grande innovation, alors. Et ma dernière question, Pierre-Emmanuel Polis, est-ce que l'espace, tout ce qui a trait aux étoiles et aux astres, fait toujours autant rêver en Belgique ?
Je dirais même de plus en plus. Comme je dis toujours, la Belgique est le plus grand des petits pays de l'Agence spatiale européenne. On a beaucoup d'industries en Belgique qui travaillent sur des composants extrêmement importants et surtout technologiquement parlant très pointus au niveau spatial, ce qui maintient beaucoup de chercheurs en Belgique grâce à nos savoir-faire et aux contrats qu'on signe avec les agences spatiales, dont l'Agence spatiale européenne. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et moi qui travaille à l'Eurospace Center, qui vois défiler des dizaines et des dizaines d'enfants et de jeunes, et qui ressortent de là avec des étoiles plein les yeux et qui sont convaincus que le spatial est quelque chose d'extrêmement important pour notre vie quotidienne, pour progresser au niveau de l'humanité dans tous les domaines. Si on n'avait pas le spatial, l'humanité stagnerait. Et heureusement, on en a en Belgique. Et ma foi, c'est une très très bonne chose. Merci.
Eh bien, Pierre-Emmanuel Polis, je vous remercie. Je rappelle que vous travaillez à l'Eurospace Center et que vous êtes président de la Mars Society Belgium, grand passionné de l'espace belge. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Avec grand plaisir et à bientôt.
À bientôt, au revoir.